Bonjour tout le monde, Emmanuel avec vous cette semaine. J'espère que vous allez bien parce qu'on parle d'un sujet délicat. Aujourd'hui, on parle de la mort. La mort, c'est un sujet qui est sensible, qui est complexe, parce que la mort, ça fait partie du contrat de la vie. Dans le grand monde de polarité dans lequel on vit, c'est un des plus grands paradoxes. Et quand on aborde la mort, on ne peut pas faire autrement que se confronter à la nôtre. Notre propre mort comme humain avec un corps physique. Et si on pense à notre propre mort, ça peut engendrer en nous des émotions comme l'anxiété, comme la peur. C'est complexe et sensible parce qu'on est aussi confronté à l'inéluctable, hein, la possible mort d'un proche, d'un être qui nous est cher, de ceux qui nous entourent et qui sont aussi mortels que nous, finalement. Et la plupart du temps, quand on se le fait demander ou qu'on y réfléchit, on a vite tendance à se dire qu'on préfère notre mort à celle d'un proche. Parce qu'avec le deuil vient la peine, une tristesse importante, l'ennui de la personne qui est partie. Ça, c'est un autre paradoxe ici, parce que comme notre propre mort peut nous faire peur quand elle est comparée à la perte et à la douleur ressentie à la mort d'un proche, elle devient comme moins menaçante et ça devient relatif à quelque part. Et toutes ces émotions qui proviennent de la mort proviennent du fait que la mort, c'est irréversible. On connaît très bien l'irréversibilité du processus de la mort et aussi on n'a aucune idée de comment il se passe ce processus-là, ni ce qu'il y a après. Et j'ai souvent parlé à quel point l'inconnu nous fait peur. Donc, est-ce que c'est la mort qui est angoissante ou le fait qu'on la connaisse pas bien? Mais tout ça, c'est la mort physique à laquelle on pense immédiatement quand on dit le mot mort, mais la mort, elle n'est pas juste physique. Combien de choses meurent dans nos vies? Les morts symboliques sont aussi des morts qui ponctuent la trame de nos vies, mais encore là, qui dit mort de quelque chose, un projet, une étape, une partie de soi, le deuil d'une motricité qu'on n'a plus après un accident, ça dit aussi fin, changement, nouvelle réalité, et on sait déjà que tout ça, ça implique aussi la peur. En voyant la mort comme la nôtre, comme une réalité possible dans nos vies à travers nous-mêmes et ceux qui nous entourent, en nous voyant comme des êtres mortels, mais aussi comme ceux qui restent, endeuillé après la mort d'un proche, on regarde la mort puis on essaie de voir si cette inéluctable vérité-là ne pourrait pas être belle et relative. Parce qu'il est de mise de se poser la question, est-ce que la mort est réellement la fin? Est-ce que c'est possible de se réconcilier avec la mort? C'est ce qu'on va essayer de faire ici, doucement, pour toutes les personnes qui la pleurent ou qui en ont peur. On en parle cette semaine avec notre invitée qui a elle-même vécu une expérience de mort imminente, la comédienne et écrivaine Lise Thouin. Bienvenue à Emmanuel avec un M et deux L. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Oh, Lord, make me a rainbow, I'll shine down on my mother, she'll know with you when she stands under my colors, oh, and life ain't always what you think it ought to be, you know, ain't even gray, but she buries her baby, the sharp knife of a short life, well, I've had just enough time, if I short life.
ever did is done. A penny for my thoughts, oh no, I'll sell them for a dollar. They're worth so much more after I'm a goner. And maybe then you'll hear the words I've been singing. Funny when you're dead how people start listening. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Uh-oh, the ballad of a dove, go with peace and love, gather up your tears, keep them in your pocket, save them for a time.
C'est toujours très délicat de parler de la mort, et c'est encore plus délicat de parler de la mort de manière belle, de manière positive. Hein? De quel droit on enlève le drame que la mort sous-tend? Est-ce qu'en parlant de la mort dans ses différents angles, on n'enlève pas un peu l'importance de la vie? Je pense pas. Et je me permets de le faire avec mon cœur, en discutant des réflexions qui, je l'espère, vont nous permettre de mieux vivre avec la mort. Je trouve ça important parce que dans l'idée que tout est perception dans la vie, la travailler ou du moins la questionner, cette perception-là, ça va nous permettre peut-être d'y trouver de la beauté et que de voir la mort sous un angle plus positif va nous aider définitivement à mieux la vivre. Quand on parle de la mort, on parle de la mort physique, du deuil de ceux qui restent, des deuils complexes, ceux qui sont vécus quand la situation ou la relation avec la personne qui décède était conflictuelle, non réglée, disons-le comme ça, là. On parle de la mort de nos animaux, de la mort de nos enfants, du deuil périnatal et des morts symboliques aussi, parce que quand on y pense, la mort et la vie dansent ensemble constamment et même à tous les jours. Mourir à soi-même, symboliquement, on le fait souvent. Moi, je l'ai fait souvent. Il y a simplement certaines morts sont plus évidentes que d'autres et ont un plus gros impact que d'autres, ça, il faut se l'avouer. Et la mort est tellement un sujet sensible qu'on le cache à nos enfants. En fait, c'est un sujet qui devient tabou et on expose rarement nos enfants à la mort, comme les amener dans un salon funéraire, donner des détails, expliquer littéralement la place de la mort dans nos vies. Et c'est sûr que selon l'âge, l'enfant comprend pas toujours la mort et ce qu'elle implique. C'est pas avant l'âge d'environ 7 ans qu'un enfant comprend les concepts d'universalité et d'infinité, de non-retour. Avant l'âge de 7 ans, l'enfant comprend pas que quelqu'un de décédé est parti pour toujours. Il reste avec une notion d'absence de la personne qui reste relativement dans le moment présent. La projection dans le temps est pas nécessairement possible pour eux et donc ils peuvent finir par comprendre cette idée-là un peu plus tard et devoir revenir sur une mort d'un proche qu'ils ont vécu plus jeune pour la revisiter, pour mieux la comprendre. Et ça m'amène à me questionner, et si les enfants avaient la bonne réponse? Est-ce que c'est notre tendance à se projeter toujours dans le temps, dans le futur, qui nous rendrait difficile la tâche de bien vivre la mort? Parce qu'au final, ce qui nous fait mal dans la mort, c'est de penser au futur, à tout le temps qui reste sans la personne qui est décédée. C'est de penser au futur du moment de notre propre mort, quand elle va arriver, parce que clairement, si on a la capacité de penser à notre propre mort, c'est qu'on est encore assez vivant pour pouvoir le faire ici et maintenant. T'sais. C'est la nostalgie aussi, les souvenirs, ce qui n'est plus là. Finalement, si on regardait la mort dans le moment présent, en restant dans le ici et le maintenant, est-ce qu'on ne serait pas plus comme des enfants? J'ai aussi souvent parlé de notre tendance à hiérarchiser les choses, hein? Dans la vie, en considérant certaines choses plus valables que d'autres. De donner plus d'importance, de voir certaines choses plus graves que d'autres. Et c'est le même cas pour la mort. Quand on vit la mort, on se souhaite que ce ne soit pas juste un animal de compagnie, parce que là, ce qui nous entoure va nous refléter à quel point ce n'est pas grave et que notre peine, elle est injustifiée. Linda Lemay a écrit d'ailleurs une chanson là-dessus. Et si c'est une fausse couche, eh bien, ça risque fort d'être banalisé et normalisé, considérant qu'une grossesse sur 3 ou sur 4 finit en fausse couche. Et pourtant, c'est un bel exemple la fausse couche, où la mort physique et la mort symbolique se rencontrent. Parce que des parents qui vivent une fausse couche, aussi normative soit-elle, et peu importe la vision qu'on a de la viabilité d'un fœtus, c'est aussi en grande partie la perte d'un projet. C'est la perte symbolique de toute une nouvelle vie qui avait pris naissance dans la tête, dans l'imaginaire, dans la capacité de projection de ces parents-là. Et je suggère donc de tout mon cœur que malgré la beauté que je vois personnellement en la vie et en la mort, avec tout le respect du monde et la peine qu'un deuil amène, on finisse par laisser le droit à tous et chacun de le vivre, peu importe leur perte. Ça va être là la moindre des choses, tu sais. Et le deuil. Je parlais avec une femme qui a perdu son mari des 24 dernières années d'un cancer il y a 18 mois de ça. Puis elle me disait, Emmanuel, je dois apprendre à être seule. Comment on fait quand on est habitué de parler, partager, prendre des décisions à deux? Ça devient un nouveau défi que de le faire tout seul, tu sais. Et c'est beaucoup plus ça qui entre en jeu que la mort elle-même. C'est un grand défi qui ramène vers soi et qui va puiser très, très, très loin à l'intérieur. Que ce soit un amoureux, un ami, un parent, c'est se réapprivoiser quand on vit la mort de quelqu'un d'autre. Et c'est là que commence la redécouverte de soi-même. Qu'est-ce que j'étais avant cette relation-là? Qu'est-ce que j'aimais? Et donc, qu'est-ce que j'aime aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je pense vraiment? Et on tombe face à face avec soi-même. Et on doit apprendre à se fier sur soi, ses ressentis, ses opinions, ses décisions. On doit redevenir son ou sa meilleure amie, sa confidente. On doit apprendre à se faire confiance, avoir confiance en soi, parce que la personne envers qui on se tournait pour avoir des conseils, être guidée, n'est plus là. Donc, on doit maintenant se retourner vers soi. Avoir confiance en soi, en qui on est, ce dont on est capable, sans l'autre. Et j'y vois là, personnellement, une opportunité, malgré tout, qui est belle. Parce qu'avec la mort physique de l'autre vient la mort symbolique d'un ancien soi pour mieux renaître, nous aussi. La vie et la mort dansent toujours ensemble. Et quand on pense à notre propre mort, on pense aussi à la mort assistée. Hein? Le fait de pouvoir choisir comment on meurt. Et ça a créé beaucoup de remous. Et j'étais, moi, de celle qui s'est posé la question et qui avait une petite réticence, une petite tension à l'intérieur qui était reliée à cette idée-là. Parce que je me suis posé la question, et si on allait contre nature? T'sais, on doit peut-être juste laisser aller la vie comme elle veut aller. Pourquoi on choisirait de mourir? Mais au final, quand on regarde tous les soins qu'on apporte à quelqu'un qui est dans une piètre qualité de vie et à quel point on étire la vie à tout prix, c'est absolument pas laisser cours à la vie. Et en considérant que le libre arbitre, c'est la loi numéro un qui régit notre univers, clairement, on a le choix dans la façon et le moment de mourir. Ça reste complètement à notre discrétion. Ça fait partie de nos choix, de nos droits et ça veut aussi dire que des fois, on voit la mort comme une vie plus belle que celle qu'on connaît déjà. L'inconnu devient comme plus agréable que le connu. La vision de la mort, c'est très relatif. C'est lié à notre perception et c'est une question de culture aussi. Et notre façon de vivre la mort est intimement reliée à nos croyances relatives à ce qui se trouve après. Et c'est prouvé que la mort est beaucoup mieux vécue quand on entretient la croyance ou la connaissance, c'est selon, qu'il y a un après. D'ailleurs, il y a les cultures, tu sais, ils vivent bien la mort, ils l'aperçoivent même positivement, ils la festoient, ils la voient comme une libération. C'est également les cultures dans lesquelles la réincarnation et la vie invisible est une réalité incontestable. En fait, ce serait la réalité telle qu'elle nous a été apprise qui serait la grande illusion. Et si on mourait jamais? Et si la mort, c'était la plus belle chose qui pouvait nous arriver dans la vie en tant qu'humain? Est-ce qu'on est capable de le considérer? Est-ce qu'on est prêt à le considérer? On est tellement, tellement plus que ce qu'on voit. On est tellement plus que ce qu'on voit. On est tellement plus que ce qu'on pense être. Et on va regarder un petit peu plus tard comment on peut se réconcilier un peu plus avec la mort. Du moins, je vais donner mes réflexions personnelles de tout mon cœur. Et on va regarder aussi la mort avec quelqu'un qui l'a vécu de très près, les citoyens, dans quelques instants.
a des mots pour le pire. J'ai vidé l'arsenal. Je ne sais plus trop si j'ai mal. J'ai peut-être un fond de fakir. Ça peut aider à mourir. Je sais que tu crois encore au miracle, mais je sens que lâche les embâcles. Ce n'est plus vraiment mon corps. Il ne tient.
Comédienne, chanteuse, écrivaine, vous l'avez connue avec son personnage de Nicole dans L'Anse et Compte. Moi, j'étais un petit peu jeune, mais un film qui a bercé mon enfance, c'est La Grenouille et la Baleine.
Oui.
mon Dieu, ça, je m'en rappelle très, très, très bien. Mais ce qu'on sait moins, c'est tout un pan de vie de bénévole à Sainte-Justine auprès d'enfants malades et qui passent de l'autre côté des choses, on peut le dire comme ça, avec sa fondation Boule de rêve. Lise Thouin vient nous parler de la mort. Bonjour, Madame Thouin.
Bonjour, Emmanuel.
Comment allez-vous?
Ça va bien.
Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation-là. Parce qu'on vous a connu à l'écran, mais ce pan de vie-là a pris toute une tournure et ça a commencé en 1985 avec une expérience de mort imminente que vous avez vécue vous-même.
Oui. En fait, ça s'est passé comme ça. Je revenais d'un voyage en Europe, en France et en Italie, avec mon mari de l'époque, Jean-Claude Laure, et mes enfants. Et quand je suis revenue, deux jours après, j'ai commencé à pas être bien, puis quatre jours plus tard, on m'a rentré d'urgence à l'hôpital. J'y suis restée deux mois et demi. J'avais fait une virémie, et le fichu virus s'appelait un Coxsackie B5. Et la virémie, c'est C'est un virus qui s'installe partout dans le corps. Alors,
c'est généralisé.
Après, méningite, encéphalite, myocardite, péricardite, hépatite, tous les noms en hit qu'on peut imaginer, je les ai eus. Mm-hmm. Et de Guerlas, le virus m'a laissé tranquille. Mais à l'intérieur de ces 2 mois et demi d'hôpital, exactement le 24 juillet 1985, vers 11h30 du soir, j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. C'est-à-dire que je suis morte et, de toute évidence, je suis revenue.
Et moi, je suis née en août 85 et c'est ce qu'on vient de dire. On est né à un mois d'intervalle.
On a le même âge
parce que vous le dites toujours. Moi, c'est ma deuxième naissance.
Oui.
La vie change quand on se rend compte de la réalité. Parce que je veux vous citer dans votre livre, De l'autre côté des choses, vous dites « C'est exact, mais pas la vérité, ce que vous avez écrit. » Qu'est-ce que vous entendez par là?
Ben, j'entends le fait que moi, quand je vais raconter mon expérience de cet après-midi avec toi, Emmanuel, mm-hmm. que je tutoie parce qu'on est du même âge, je vais la raconter d'une telle façon. Je vais avoir vu les choses avec ce point de vue-là. Mais toi, quand tu vas la raconter, tu verras le technicien, tu verras une autre partie du studio. Tu aurais été frappé par une chose plutôt et moi plutôt par une autre.
Donc vous avez la conscience que votre perception est
unique. Exactement. Et comme tout le monde, on a une perception unique des choses et des êtres. Mm-hmm. On parlait de ce qui s'était passé en 1985. Mm-hmm. Bien sûr, ça change une vie. Faire une expérience de mort imminente, j'en avais pas entendu parler de ces expériences-là. En 85, évidemment, on n'en parle pas. C'est quelques années plus tard que j'ai découvert des livres qui en parlaient.
Et vous n'étiez pas seule.
Et que je n'étais pas seule d'avoir vécu ça. Mm-hmm. Cependant, quand je suis revenue ici, j'étais absolument persuadée que c'est ce qui m'était arrivé. Et c'est bouleversant comme expérience. C'est fulgurant. Ça change tout. Pourquoi? Parce que on est dans une situation où on se rend compte que la mort n'existe pas, qu'on continue ailleurs, dans un monde que moi j'ai appelé de l'autre côté des choses. Il y a une continuité, et ce que j'ai vécu est imprimé en moi pour toujours.
Mmh. Ce que j'ai trouvé absolument touchant dans le récit de votre histoire, c'est quand vous êtes revenu dans cette vie-ci, dans la vie tangible, dans le matériel, comme on peut le nommer, vous avez eu un grand vertige. Comment on fait pour se sentir vivante dans la vie quand on sait ce qu'il y a de l'autre côté? Parce que vous l'avez décrit avec une grande beauté où les mots ont peu à dire, là.
C'est pas une expérience qu'on raconte aussi facilement que si je racontais un voyage en Italie ou ailleurs. Les mots sont petits, ils sont secs. Quand on fait une expérience, j'ai fait une expérience de communion, de compréhension totale et globale de ce qui est. Alors, bien entendu, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment l'exprimer. Et plus encore, les concepts n'existent pas ici pour pouvoir l'exprimer. On part d'un état d'expansion totale. On revient dans un petit cerveau complètement limité et on en garde une nostalgie, on n'en garde qu'une impression. Et c'est étonnant parce que les gens qui font des expériences de mort imminente, ils en reviennent avec des images différentes. Et on peut se poser la question, mais pourquoi? Chaque expérience se ressemble un peu, mais les images sont différentes. Et moi, je pense que quand ce qui est vivant revient dans ce petit cerveau minuscule et si peu adapté à comprendre les choses. Notre cerveau, forcément, puisqu'il il fonctionne comme ça, crée des images. Mm-hmm. Parce qu'on comprend les choses par image, on vit les choses par image. Et selon notre âge, notre culture, notre religion, notre non-religion, le cerveau décode en images qui se rapprochent de ça. Je me souviens d'un petit garçon qui s'appelait Fernando. Il avait, je ne me souviens plus, 9 ou 10 ans, qui, une nuit, a fait, on le sait, il a fait une mort clinique. Il est parti, le cœur s'est arrêté de battre et il est revenu. Et le lendemain, il m'expliquait, « Tu sais, Lise, je suis allée au pays de Maya l'abeille. » Et puis Maya l'abeille, c'était le dessin animé que oui. Tous les enfants écoutaient.
C'est de mon époque, effectivement.
Oui, c'est ça.
C'est de notre époque, dirais-je.
Et je trouvais ça assez extraordinaire que lui, par son âge, par sa culture, là où il était rendu, ce qu'il avait appréhendé, il l'a décodé au pays de Maya l'abeille, qui lui avait dit, « Ben écoute, c'est pas tout à fait maintenant, tu reviendras, mais pas aujourd'hui. » Et il m'avait expliqué ça comme ça. Et ça m'a fait comprendre bien des choses. Pourquoi les gens reviennent avec des expériences qui semblent différentes, mais en fait, qui sont les mêmes.
Parce que les gens rapportent ce qu'ils sont, qui ils sont, du mieux qu'ils
colorés
peuvent.
Colorés par leur vécu,
Oui. Effectivement. Et puis, on est des êtres de vibration. Moi, j'en parle souvent. Pour ceux qui c'est la première fois qu'ils écoutent l'émission, vous irez écouter les autres avant, mais j'en parle très souvent de ces êtres de vibration que nous sommes. Et on sait que la pensée est créatrice. Donc, à la minute où on appose notre cerveau, justement, quand on le met en mouvement et qu'on rentre dans l'interprétation de tout ça, ben on y va avec qui l'on est.
Avec qui on est.
Et je veux qu'on continue à parler de votre retour, mais aussi du choix que vous avez fait de côtoyer la mort au quotidien avec ces enfants-là dans quelques instants, tout de suite après. Vous écoutez toujours Emmanuel avec un M et deux L et on parle de la mort cette semaine avec Lise Twain, notre invitée, dans quelques instants.
Plus haut, un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin, je veux voir comment c'est là-haut, garde mon bras et tiens ma main, un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller encore plus loin, laisse mon bras, mais tiens ma main, je n'irai pas plus loin qu'il faut, encore un pas, encore un saut, une tempête et un ruisseau, prends garde, j'ai laissé ta main, attends-moi là-bas, je reviens, encore un pas, un petit pas, encore un saut et je suis là, là-haut si je ne tombe pas. J'y suis, je ne tombe pas. C'est beau,
c'est beau,
c'est beau,
c'est beau.
Si tu voyais le monde au fond là-bas, c'est beau,
c'est beau, c'est beau.
Un peu plus loin, un peu plus seul. Je ne veux pas être loin toute seule. Viens voir ici comme on est bien. Quand on est haut, comme c'est bien. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter. Comment descendre sans tomber,
un peu plus loin, un peu plus fort. Encore un saut, essaye encore. Je voudrais te tendre les bras. Je suis trop haute, tu es trop bas. Encore un pas, un petit pas.
On est toujours avec Lise Twain qui nous parle de la mort de si belle façon et de si proche aussi, de la mort et de la vie finalement, parce que c'est juste un mot, on en a parlé de ces idées de concepts-là. Pour vous, j'ai vraiment une question qui me brûle les lèvres. Quand on regarde le nombre de gens qui disent avoir vécu une expérience de mort imminente comme vous, quand on regarde le nombre d'enfants qui peuvent voir ce que les adultes ne voient plus, que ce soit des êtres, des entités, des lumières, des belles choses, quand on regarde des enfants qui se rappellent des vies antérieures, au nombre de... et la science avance aussi là-dedans énormément, qu'est-ce qui fait qu'on reste aussi sceptique? Qu'est-ce qui bloque?
Je pense que tout le monde a peur de la mort. C'est un des plus grands mystères de la vie. Et c'est certainement le plus grand tabou des temps modernes. On a peur de la mort. Et je pense que c'est une émission comme celle-ci, c'est important. Toutes les fois qu'on peut en parler, ça apprivoise cette réalité-là avec laquelle on est pris forcément. À partir du moment où on commence à vivre.
Ça vient dans le contrat. C'est même pas un petit caractère.
Non, c'est vraiment ça. Et la mort, dans les pays occidentaux, elle est bâclée, elle est vidée de son sens, elle est vite raturée. On le sait, quand on voit des gens mourir... Le plus vite, ils peuvent être incinérés, le plus vite, ils peuvent être enterrés. On se dit, bon, c'est correct, garde. On fait comme si on n'allait jamais mourir, comme si on était immortel. C'est bête parce que plus on est proche de la mort, plus on se sent vivre. Et pour moi, qu'il dit, c'est que j'ai côtoyé beaucoup de mourants dans ma vie, des enfants. Adolescents pendant...
Et leurs parents et des endeuillés aussi.
Ben oui. Pendant, presque 12 ans et régulièrement aussi, non, pas régulièrement, mais de temps en temps, quand la vie me propose et me fait faire une rencontre et que j'accompagne une personne, si cette personne-là vit ce moment-là le plus humainement possible, elle est souvent beaucoup plus proche de la vie, du sens de la vie, de l'humain en elle que pendant sa vie où elle n'a pas eu le temps de... où elle n'a pas eu le temps de s'arrêter puis de penser à ça.
Mm-hmm. Et c'est surtout des enfants que vous avez accompagnés dans la mort. Vous êtes une passeuse d'âme, vous le dites. Et j'ai parlé de cette vision de ces enfants-là un peu plus tôt en émission, dans l'émission où... Quand les parents, les professionnels de la santé autour voient déjà la mort qui est arrivée, eux sont encore beaucoup dans le moment présent.
Oui. Ils nous apprennent beaucoup, les enfants, que, qu'ils soient malades, mourants ou bien portants, ils vivent dans l'instant présent. Ça, c'est une des choses qu'ils nous apprennent et ils n'ont rien à faire de notre... Compassion, oui, mais de notre...
Pitié, je dirais.
Pitié,
en fait.
De notre colère.
Des désarroi, découragement.
Absolument. Oui. Les enfants, ils restent des enfants jusqu'à la fin. Je me souviens d'une expérience avec une petite fille de quelques mois, Shirley, dont les parents étaient haïtiens. Ils avaient compris que cet enfant-là, c'était un sort vaudou. Son cancer était un sort vaudou, donc ils ne s'en occupaient pas. Donc, j'ai pris cet enfant-là sous mon aile. Et à un moment donné, j'étais avec elle dans sa chambre. Et il faisait très chaud, juste petit corps fragile. Et je la berçais. Et je lui demandais fort. La porte était fermée, je pouvais parler. « Shirley, dis-moi, pourquoi tu es venue au monde? Pourquoi tu tapes ça? Ça n'a pas de sens. Un petit bébé comme toi qui souffre autant. » Et je vous jure qu'elle m'a répondu. bien sûr, pas avec des mots, mais j'ai entendu sa voix dans tout mon être qui disait « Lise, arrête là, tais-toi et berce-moi. » Et c'est de ça dont elle avait besoin, « Berce-moi » et faire de l'accompagnement.
Et d'être aimée.
Oui, « Berce-moi, aime-moi ». Et c'est une belle leçon de vie. Et cet enfant-là, elle est décédée sans que j'y sois et ça m'a fait beaucoup de peine. Mais elle m'a appris beaucoup que je n'avais pas besoin d'être là, que sa mort ne m'appartenait pas. Mm. Je l'accompagnais dans un bout de sa vie et que j'avais qu'à la bercer et à l'aimer.
Parce qu'on parle ici de la continuité sur des choses, on parle ici de la beauté aussi, de ce qu'on peut toucher. On n'a pas besoin d'attendre d'être décédé pour y toucher, y s'ouvrir et accéder parce que c'est en soi. Par contre, c'est beaucoup plus facile d'en parler quand on n'a pas la peine d'un être cher et surtout pas d'un enfant qui est décédé à porter ou qui est en train de décéder. J'aimerais, en terminant, qu'est-ce qu'on aurait à dire à ces gens-là qui vivent la mort d'un proche, qui trouvent ça difficile?
C'est sûr que vivre la mort d'un proche, particulièrement la mort d'un enfant, c'est ce qu'il y a de plus épouvantable au monde. La mort d'un amoureux, la mort d'une mère, des fois, c'est extrêmement dur. Et je ne nie pas ça. Mm. Sauf que le fait d'avoir apprivoisé pendant sa vie la mort, forcément, on va avoir des gens accompagnés dans notre vie. Les gens vieillissent, on vieillit tous. Nos parents vieillissent, nos amis vieillissent. Forcément, on va être à côté d'eux. Et comprendre que c'est tellement important d'être avec eux, d'avoir apprivoisé pendant un moment la mort, de l'avoir regardée, de l'avoir écoutée comme à la radio, de l'avoir vue dans certains films à la télé, d'y avoir pensé, d'avoir fait un contact le plus... Il y a un contact possible. On peut apprivoiser la mort. On le fait doucement et on pourra à ce moment-là aider les gens qui sont en train de vivre cette expérience difficile de la mort, et c'est extrêmement difficile. Et perdre un enfant, j'imagine pas un chagrin plus intense, sauf que j'ai vu des parents qui sont sortis en devenant des êtres humains extraordinaires, proches des autres, et qui se sont agrandis l'âme, et puis il y en a d'autres qui se sont recroquevillés. Alors c'est important de... Je dis c'est important, on pourrait en parler longtemps.
Moi, je dirais
là.
Que dans mes petits mots d'humain, j'entendrais, ça résonne en moi le mot sérénité, l'histoire, c'est le temps qu'on avait pour parler ensemble, mais je vous réinvite et on parle de la vie et de la mort aussi longtemps que vous allez le désirer. Ça a été un immense honneur pour moi.
Merci, Emmanuel, merci avec vous. Un E et deux L
et un M, voilà. Merci infiniment.
There's a whole nother conversation going on in a parallel universe where nothing breaks and nothing hurts. There's a waltz playing frozen in time, blades of grass on tiny bare feet. I look at you and you're looking at me. Could you beam me up? Give me, I don't know what I'd say in it. Probably just stare, happy just to be there, holding in your face. Beam me up, let me be lighter. Tired of being a fighter, I think a minute's enough. Just beam me up. Saw a blackbird soaring in the sky. Barely a breath, I caught one last sight. Tell me that was you saying goodbye. There are times I feel the shivering cold. It only happens when I'm on my own. That's how you tell me I'm not alone. Could you beam me up? Give me a minute. I don't know what I'd say in it. I'd probably just stare, happy just to be there, holding your face. Beam me up. Let me be lighter. I'm tired of being a fighter. I think a minute's enough. Just beam me up. In my head I see your baby blues. I hear your voice and I break into you a sign. I'll burn a candle and turn off the lights. I'll pick a star and watch you shine. Just beam me up. Give me a minute. I don't know what I'm saying. I'd probably just stare, happy just to be there.
Il y a des étapes du deuil qui sont bien reconnues et qui sont normales. Et laissons-nous bercer dedans. Chaque étape a ses bienfaits et nous amène ailleurs, nous amène plus loin. Prendre le temps dont on a besoin pour les traverser, c'est bien un droit qui nous revient. Mais à travers toutes ces étapes nécessaires, c'est possible que pour soi-même, en cadeau, on puisse intégrer des réflexions, des approches. Lise Toin nous a parlé tout à l'heure de voir la vie qui est belle et pendant que la chanson jouait, Lise a dû retourner à ses occupations et elle a ajouté quelque chose que je voulais vous partager. Elle m'a dit, tu sais Emmanuel, quand on va de l'autre côté, on arrive comme on est parti. Donc si on est parti en colère, on arrive en colère. Si on est parti en paix, on arrive en paix. J'ai souvent parlé de nos perceptions qui créent notre réalité. Et j'ai souvent parlé de la pensée créatrice, pas encore assez. Je vais continuer à en parler beaucoup plus en profondeur, probablement bientôt. Mais c'était quelque chose que je voulais nommer d'emblée, la sérénité. La sérénité, c'est une approche qui vaut la peine d'être considérée, considérant ça. Et je remercie beaucoup Lise de nous avoir partagé cette belle clé. Et y vivre comme des enfants aussi, dans l'ici et le maintenant. C'est une des approches, des attitudes qui fait beaucoup de bien. Je pense que comme un enfant, prendre chaque moment présent pour ce qu'il est. Comme être qui va mourir, mais qui est encore vivant. Comme endeuillé qui vit l'absence d'un être cher, juste le temps d'un déjeuner. Ça peut nous aider à vivre beaucoup mieux au quotidien avec la mort. Et comme toutes tes perceptions, je ressens vraiment le besoin de parler de cette perception-là qu'on a de la mort, parce qu'avec cette perception-là vient le vécu de ce qu'on perçoit. Si on pouvait s'apaiser en la considérant dans tout ce qu'elle est potentiellement, c'est-à-dire pas la mort du tout. Et nécessairement, je m'adresse surtout à ceux et à celles qui, parmi nous, doutent encore. Rien ne se perd, rien ne se crée. C'est une loi qu'on accepte tellement facilement en physique. Mais c'est drôle à quel point on décide où elle s'applique et quand elle s'applique. On la connaît comme un fait universel et encore. On y met une limite, une condition, un obélisque. Hein? Lire les petits caractères en bas s'applique sauf dans le cas d'une mort physique. Quand on vit des deuils symboliques dans nos vies, on sait que tout se transforme en autre chose et sincèrement, c'est un fait. Donc pourquoi ça serait différent dans la mort physique? Oui, notre réalité est toujours perception et si on croit que la mort est dangereuse, qu'il y a un enfer, qu'il y a un ciel ou encore qu'il n'y a rien après la mort, clairement, on vit notre réalité et jamais au grand jamais on va être en contact avec autre chose que ça. Il n'y a aucune chance, je répète. Il n'y a aucune chance. Aucune possibilité qu'on puisse le moindrement être en contact avec une réalité différente que ce qu'on entretient comme perception, comme croyance, face à ça ou à toute autre chose. Et ma question est la suivante. Pourquoi on tient tant à ce que la mort soit négative ou encore qu'il n'y ait rien après la mort? Qu'on soit juste un être avec des cellules, un cerveau, un cœur, des jambes. Qu'est-ce que ça changerait dans nos vies, dans la façon dont on l'amène, mais aussi dans la façon dont on vit la mort des autres et qu'on approche notre propre mort? Si on commençait à considérer les autres possibilités, là, on fait juste le test. On n'est pas obligé de rien faire d'autre qu'un test. Qu'est-ce que ça changerait? Parce que ce qui me fascine, c'est le blocage et surtout le déni d'une multitude d'évidences. Je répète, une multitude d'évidences que l'âme existe, que l'énergie existe, que le monde est vibration, que la réalité qu'on perçoit avec nos cinq sens, ben, on oublie souvent le sixième. Toutes les études de physique quantique, les nouvelles avancées scientifiques, oui, scientifiques, si on croit que la science est l'apogée de la connaissance, là, ben, elle aussi commence à nous le démontrer. Si on regarde les croyances de plusieurs autres pays et mouvements de pensée, si on regarde le nombre de cas d'enfants qui se rappellent d'autres vies, de gens qui vivent des événements dits paranormaux, sans compter tous les autres qui ont vécu une expérience de mort imminente, comme Lise Twain, que vous avez entendu plus tôt dans l'émission, malgré tout ça, on continue à persister et à croire que ça, c'est des mensonges et que tant qu'on ne le voit pas, on ne peut pas le croire. On ne veut pas le croire, c'est un choix. Et ça reflète en rien ce qui est vraiment et ça va toujours me fasciner. Ça, je me permets de le dire. Donc, ce qu'on se dit, c'est tant que je ne suis pas mort, moi, je ne pourrais pas en attester. Vraiment? Moi, je peux dire que ce n'est pas nécessaire d'être mort pour être en contact avec la réalité. Ouais, mais croire qu'il y a quelque chose après la mort, c'est juste pour nous faire du bien. Moi, je ne veux pas me faire leurrer. Et si c'était la vie comme on nous l'a enseigné qui était le grand mensonge? Pourtant, on n'a pas aussi peur de ce mensonge-là. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on maintient cette position-là malgré les évidences, les possibilités qu'on a de se re-questionner? Ça sert à quoi? À quoi ça sert? Parce qu'on le sait que ça nous rend mieux. Qu'est-ce qui me rend mieux à l'intérieur? Se poser la question, c'est s'ouvrir. S'ouvrir, commencer à être curieux par rapport aux possibilités, pour moi, c'est s'offrir un beau cadeau de découverte. Et j'ai toujours dit qu'il était très présomptueux de penser que parce qu'on ne comprend pas quelque chose, ça n'existe pas forcément. J'étais jeune et je savais qu'on ne savait pas tout. Et c'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose que ça n'existe pas. Pourquoi on préfère croire que la mort, c'est ce qu'on nous a dit qu'elle était? Et pire, pourquoi on écoute seulement ceux qui nous disent que la mort, c'est dangereux, triste, c'est la fin, c'est la décomposition de notre corps? Si la mort est un mystère, ouvrons-nous, découvrons-le. Et finalement, différencier notre peur de la mort avec la peur de ce qui vient avec. Est-ce que c'est plutôt la peur de souffrir plutôt que la peur de mourir? Et si c'est la peur de partir sans avoir accompli tout ce qu'on avait à accomplir, faisons-le aujourd'hui. Et si c'est la peur que les gens nous oublient, de ne pas avoir laissé de traces, laissons notre trace aujourd'hui. Et si c'est la peur de la douleur d'un proche, l'ennui, la peine, pensons à tous ces gens qui ont quitté nos vies et qui sont encore vivants sur un coin de la planète. La chance qui peut émerger, c'est qu'en mourant cette fois-là, ces gens-là puissent être encore présents, mais différemment. Mais ça vaut la peine de le considérer.
I saw you in heaven.
C'est déjà presque tout pour l'émission sur la mort et comme Lise Toin le disait si bien, dans ce contexte, les mots sont si petits. Je remercie Anne-Laure Janson à la recherche, Maurice Bolduc à la régie et Jean-Sébastien à la liberté au montage et également Lise Toin d'être venue. Je vous rappelle que ces deux livres, Boule de rêve pour les enfants qui font leur passage de l'autre côté et le livre L'autre côté des choses sont disponibles pour ceux que ça intéresse. La mort d'un être cher, ça enlèvera jamais la peine. Mais j'ai déjà lu que la tristesse et les larmes qui coulent sont équivalentes à l'amour que l'on porte pour la personne que l'on pleure. Et c'est tout en notre honneur d'aimer autant. Continuons à aimer dans la nouvelle situation qui est là aujourd'hui. La vie est grande et si la mort est un mystère, la vie l'est tout autant. Et si on parle de croyance, je me permets de dire que pour certains d'entre nous, le fait que la vie continue après la mort de notre personne telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien, c'est une certitude qui est ressentie et vécue au quotidien. Et je fais partie de ces gens-là. C'est ma réalité. Bonne semaine.